Il est 13h30 et vous êtes à l'écoute de France Inter. C'est donc l'heure de la marche de l'histoire et c'est évidemment avec Jean Lebrun. Bonjour Jean.
Bonjour Claire Servageant.
Un petit tour en Arctique aujourd'hui.
Oui, parce que comme le président de la République était à Manille pour parler réchauffement climatique, ça nous a paru être une évidence que de nous rendre jusqu'au pôle.
Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. Ah. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera.
L'Arctique.
Le pôle, c'est le berceau des vents, le berceau des climats. Et ce qui est en train de se produire dans l'océan glacial va se traduire par les grands canaux, par les grands chenaux, le chenau de la mer de Bering, par les chenaux du détroit de Danemark, par la pollution de l'Atlantique, la pollution du Pacifique. Le phénomène est mondial.
On entendait non pas François Hollande, mais le président Jean Mallory. L'Arctique n'a intéressé l'Occident qu'assez tardivement, mais de plus en plus fortement, passionnément même. Il devient la bibliothèque des climats passés, il est conçu comme un lieu fondamental du fonctionnement du système Terre, perçu comme un espace homogène dans son altérité écologique. Mais pour aller vers l'Arctique compliqué, ne faut-il que des idées simples. Astronomiquement, c'est la région bornée par le cercle polaire, mais économiquement, politiquement, ses limites sont plus mouvantes et il s'avère de plus en plus divisé en espaces diversifiés. Sait-on par exemple que près de 90% des Inuits vivent dans des villes. Les revendications identitaires des petits peuples du Nord contribuent d'ailleurs à une représentation plus complexe des mondes arctiques qui, du Groenland au Nunavut, se découpent souvent en territoires autonomisés. L'Arctique paraît de moins en moins un. Mais il a une difficulté supplémentaire quand on parle de lui. Il est en effet l'objet de désirs que le réchauffement climatique porte à incandescence. La recherche des passages entre les continents, par exemple, a animé 4 siècles d'exploration et on voudrait maintenant les conclure par l'exploitation des passages du Nord-Ouest et du Nord-Est. Nos désirs souvent deviennent des fantasmes. Une gouvernance rationnelle de l'Arctique n'en serait que plus urgente.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Éric Canobio, bonjour.
Bonjour Jean
Grand
Lebrun.
Géographe devant l'Éternel, auteur entre autres de l'Atlas des pôles, chez Autrement, d'un très beau volume de la documentation photographique intitulé « Mondes arctiques au pluriel ». Alors le géographe sait que l'histoire, c'est un enchevêtrement, une confrontation de temporalités différentes. Et alors vous aimez bien dire qu'en Arctique, justement, joue des cycles longs, des cycles courts, et qu'on attend que s'y produisent des événements.
Oui, c'est vrai. Il y a déjà un rythme qui est propre à l'Arctique, c'est la saisonnalité. C'est l'alternance de saisons froides et de saisons moins froides. C'est déjà le premier rythme qui est consubstantiel à l'Arctique. Mais c'est dans cette approche polaire peut-être rénovée que nous faisons aujourd'hui, une approche qui doit distinguer de très grands cycles historiques, de plusieurs siècles, les cycles exploratoires, des cycles aujourd'hui, par exemple ceux qui produisent l'entrée de l'Arctique dans la mondialisation, ce sont des cycles beaucoup plus courts et qui sont peut-être des cycles économiques de type prix du baril de pétrole ou de démarches d'intégration dans des États-nations avec des projections rhétoriques parfois assez agressives aujourd'hui sur les mondes polaires.
Alors on va commencer par le temps long, par le cycle exploratoire. Je disais qu'il a commencé peut-être assez tardivement, encore qu'il y avait des vikings dans les zones arctiques dans l'an 1000, des marchands, des fauquiers, des morutiers plus tard. Mais l'exploration scientifique, 1736... Maupertuis est en Laponie et dans leur château de Siret, dans ce qui s'appelait alors la Lorraine, Voltaire et Madame du Châtelet s'entretiennent dans les allées de son départ et peut-être bientôt de son retour.
Maupertuis est prêt à risquer sa vie pour confondre les cartésiens qui prétendent que la Terre est une sphère parfaite.
Mais très bien, parfait. Qu'il se transforme en statue de glace dans cette Laponie où il court prouver que la Terre est aplatie au pôle.
Même s'il revient de son désert glacé, les mesures et les calculs du héros resteront confinés dans un infime cercle savant.
Madame, vous devez illuminer de votre éclat les nuits polaires.
Je vous souhaite à tous de connaître l'exquise soumission des filles du pôle. Ces femmes-là ont la passion de veiller au repos de l'homme.
Oh, vos propos on nous laisse de glace. Maintenant que Monsieur de Maupertuis et sa lapone friponne ont daigné nous rejoindre, allons nous asseoir.
Divine Émilie, le film d'Arnaud Sélignac. Vous allez nous dire que l'opinion s'intéresse toujours aux événements secondaires. Ici, la lapone que Maupertuis avait ramenée, vous saviez ça?
Non.
Non, moi non plus, de Laponie. Non, mais nous, ce qui nous intéresse sont les cycles longs en ce début d'émission. Et on va voir le 17e, 18e, 19e siècle, l'Arctique se situer au carrefour d'interrogations scientifiques centrales.
Absolument. Alors, beaucoup d'interrogations scientifiques majeures vont se construire à partir du XVIIe et XVIIIe siècle. Déjà, la forme de la Terre va être l'un des moteurs de l'exploration arctique. C'est une compétence qui va changer complètement le cours du monde, de savoir quelle est cette forme, la rotondité exacte de ce globe. Au temps de Maupertuis, un grand savant suédois, Carl von Linné, va, à quelques années près, ramener de ses premiers voyages en Laponie un ouvrage de référence sur la classification des espèces végétales qui va le classer dans... pratiquement en première ligne des évolutionnistes. Et c'est une exploration qui est soutenue par les sociétés savantes et qui va très vite développer un attrait sur un exotisme polaire tout à fait extravagant.
Et Louis-Philippe, enfin le futur Louis-Philippe, le duc d'Orléans, quand il était jeune, il n'est pas allé faire le tour d'Italie, il est allé voir le pôle pour sa formation. 19e siècle, grand mouvement de recherche, la première année polaire internationale où on rêve de coopération scientifique universelle, c'est 1881-1882. Oui. Vous insistez sur le fait que les Vikings, les baleiniers, les morutiers, les explorateurs, comme les conquérants, ils ont besoin de l'expérience autochtone.
Oui. Absolument.
Ici, on est au Canada. Enfin, peu importe la droite, la date, c'est un peu un son intemporel que vous allez entendre. C'est un officier de Rangers composé d'Inuits qui parle.
Ce qu'il y a d'unique et d'important dans ce programme, c'est qu'il fait appel aux habiletés naturelles des autochtones qui ont appris à vivre et à survivre dans la nature. Nous les encourageons en quelque sorte à maintenir et à développer leurs traditions. Nous les utilisons dans le cadre de leurs activités normales, de leur environnement naturel, quand ils chassent ou partent en expédition. Nous tenons à ce qu'ils transmettent leurs connaissances pratiques de la vie dans le Nord à nos troupes basées plus au Sud.
Pour l'armée, ce sont les chasseurs et les pêcheurs inuits qui font les meilleurs rangers. D'abord parce qu'ils connaissent à fond leur territoire, mais aussi parce qu'au moment de leurs expéditions, ils utilisent les mêmes méthodes traditionnelles de survie que leurs ancêtres.
Si les militaires veulent survivre ici, ils doivent connaître nos secrets.
Reportage de Radio-Canada. Allez, si je donne la date, 1987, on verra plus tard ce qui se passe dans les années 1980 dans la région. Qu'est-ce qu'ils font là, ils raclent le sol? C'est une technique autochtone, non?
Oui, certainement. Les Rangers Inuits est un corps constitué maintenant de l'armée canadienne qui contribue beaucoup d'ailleurs à asseoir la souveraineté du Canada sur ses hautes latitudes, l'extrême arctique. Et le Canada s'appuie beaucoup sur les populations autochtones et les populations autochtones sont très fières de participer à cet effort. Sur la souveraineté, sur la défense de la souveraineté.
Mais depuis quand emploie-t-on d'ailleurs le mot Inuit ?
Alors j'avais travaillé sur cette question, j'ai trouvé dans les documents fédéraux la date de 1979. On passe donc d'Esquimaux à Inuit. Inuit étant une revendication forte des populations Inuits. Inuit ça veut dire les hommes, Inuk au singulier.
Esquimaux c'est péjoratif.
Esquimaux c'est péjoratif, oui. Comme Lapon est péjoratif et remplacé aujourd'hui par le terme Sami.
Il y a combien d'Inuits d'ailleurs ?
Alors ils sont très bien recensés, c'est d'ailleurs la seule population du Grand Nord réellement recensée, environ 155 000 aujourd'hui, qui se distribue entre l'extrême-orient russe et le Groenland bien entendu.
Et les Samis c'est plus difficile à recenser parce qu'il y a peut-être des réticences de la part des pays scandinaves à identifier ethniquement les populations.
Oui, on est dans un cadre qui est très, très similaire au cadre français où l'ethnicisation des recensements nationaux est interdite. Donc on comptabilise à peu près 70 000 Samis sur l'ensemble de ce que les Samis appellent le Sapmi, c'est-à-dire leur aire culturelle traditionnelle. Il y a des recensements beaucoup plus précis par locuteurs des langues Samis en Suède, Finlande et Norvège à travers les parlements Samis qui se sont mis en place au début des années 90.
Et les petits peuples de Sibérie ?
Alors les petits peuples de Sibérie, le dernier recensement à peu près fiable date de 2002 et on nous dit, enfin les spécialistes de la Russie nous expriment leurs doutes sur ce recensement-là. On compte dans l'Arctique russe environ 2,5 millions d'habitants. C'est d'ailleurs la zone de très loin la plus peuplée de la région arctique. Environ 10% sont des autochtones. Donc on est a priori sur une comptabilité démographique d'environ 200 000 qui se distribue. Alors ça dépend des limites, c'est ce que vous avez rappelé au début de votre émission, Jean-Lebrun, parce que ça pose vraiment un problème. C'est pas un débat d'experts, cette question de où commence l'Arctique. Mais dans les comptabilités, par exemple, des peuples premiers, ça pose problème. Il y a entre 25 et 40 peuples qui ont une relation très, disons, très nordique, très, très arctique en Russie.
Alors, si on avance à grands pas dans notre histoire de l'Arctique et qu'on se trouve maintenant au temps de la guerre froide, bon, les populations des petits peuples du Nord étaient manipulées par les deux grands acteurs, l'URSS, qui a investi peut-être le plus profondément et depuis le plus longtemps, et les États-Unis, suivis par leurs alliés de l'OTAN, les pays scandinaves.
Oui, c'est pas aussi simple que ça. Là où il s'est passé un événement assez extraordinaire qui a été révélé il y a une quinzaine d'années par une commission d'enquête très officielle du Canada a été la délocalisation, pour ne pas dire la déportation, de familles inuites du Nunavik actuel, ce qu'on appelait Nouveau-Québec à l'époque, vers les archipels du Haut-Arctique, c'est-à-dire vraiment les îles perdues du Haut-Arctique, pour que ces familles assoient la souveraineté du Canada, et pas contre la Russie, mais contre l'ambition des États-Unis d'installer ses premières bases à la frontière donc de ce glacis stratégique.
Oui, parce que le Canada joue un rôle, en effet, dans cette grande partie, et considère l'Arctique comme sien.
Absolument. Il y a deux géants polaires qui se font face par la dimension de leur territoire, c'est la Russie et le Canada.
Alors il faudrait raconter aussi, puisque vous parlez d'opérations secrètes, celle des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui patrouillent au plus près des zones arctiques, la construction de bases assez nombreuses, qui maintenant que l'océan Arctique a été, pendant un moment, déclassé à la fin de la guerre froide, sont comme abandonnées ?
Abandonnées. Totalement abandonné, c'est-à-dire que dans la rhétorique parfois très agressive sur le retour d'un point chaud, d'une guerre froide, si l'on met en face de cette rhétorique des réalités objectives de base militaire, on voit un désengagement massif de la part de l'ensemble des pays, Russie et pays de l'OTAN.
C'est l'irruption de cycles courts dans l'histoire arctique. Alors, est-ce que l'exploitation des ressources, pétrole, gaz, l'urbanisation en conséquence, il y a des villes pionnières, il y a des villes Gazprom, expliquez-vous, c'est un cycle court. Pas si sûr que ça, parce que ça fait longtemps qu'on réfléchit à la question.
Oui, en Russie, c'est le pays qui construit une véritable politique de développement par des villes. Alors, on a, les géographes russes appellent ça des archipels, des archipels des oasis. Les oasis urbains. Au Canada, on va asseoir le développement sur les populations autochtones, sur les lieux de sédentarisation. C'est une différence notable. La Sibérie est un pays où il y a de grandes aires urbaines de plus de 200 000 habitants, ce qui n'existe nulle part ailleurs.
Oui, on pourrait presque parler de métropolisation.
Oui.
Mais il s'agit d'exploiter quel type de ressources ?
Alors, originellement, des matières premières minérales, fer. Ça a été historiquement les grandes mines de fer de Kiruna et de Gällivare en Suède, qui d'ailleurs ont produit la bataille de Narvik pour le contrôle de la route du fer en 1940.
Puisqu'on parle fer et agglomération, les auditeurs des journaux télévisés savent bien maintenant, pour avoir vu des reportages, que Kiruna, la ville, va être déplacée de quelques kilomètres pour permettre l'agrandissement de l'exploitation de la mine de fer.
En fait, elle s'effondre sur elle-même, ouais. puisqu'on est passé de la mine aérienne à la mine souterraine, et Kiruna, qui est une ville qui appartient finalement à la multinationale publique, hein, suédoise, qui exploite le minerai de fer. C'est le minerai de fer le de grande qualité à Kiruna. Finance son déménagement par quartier. C'est quelque chose de tout à fait singulier.
Alors le fer, et puis ?
Et puis, assez rapidement, l'or, bien sûr. Charlie Chaplin a fait un film formidable, mais la ruée vers le Klondike, c'est une ruée vers l'or, hein, à la frontière entre l'Alaska et le Yukon canadien. Et puis, à partir de la Seconde Guerre mondiale, on va se rendre compte d'un potentiel tout à fait considérable en métaux rares. Et en Russie, les goulags vont asseoir l'exploitation du nickel à Norilsk, dans le bassin de Norilsk. 1 tonne sur 5 produite de nickel dans le monde l'est dans la ville de Norilsk. 1 tonne sur 10 de cobalt l'est à Norilsk. Ce sont des combinats absolument stratégiques.
Et puisque vous parliez des villes Gazprom, il faut en venir à la prospection pétrolière, qui est une vieille histoire aussi, si on parle là des États-Unis et du Canada, du côté de l'Alaska et du Yukon.
Chaque fois, je retourne à Ottawa inspiré par l'immensité absolue et la beauté sauvage du Grand Nord canadien. Et je retourne plus déterminé que jamais de faire voir à tous les Canadiens et Canadiennes tout le potentiel du Nord. Il y a du gaz dans la mer de Beaufort, du pétrole dans l'Arctique de l'Est, et de l'or au Yukon, et des diamants au Nunavut et dans les territoires du Nord-Ouest.
Toujours négligé dans le développement des ressources d'impliquer les populations indigènes qui vivent dans les milieux où on développe les ressources.
Comment pourrait-il en profiter? Il va en profiter comme manœuvre, il va en profiter un peu comme mécanicien, mais là encore, ça ne répond pas à une totalité, à une majorité des Esquimaux. Il y aura, là encore, comme chez les Indiens, le bien-être social pour pallier, pour remplacer. Le pétrole ne lui profitera pas directement, à moins que l'on reconnaisse ses droits d'autochtones et que des droits en argent soient payés, distribués au prorata à chaque Esquimau père de famille.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Nous parlons des enjeux de l'Arctique avec Éric Canobio. Alors, petit jeu d'identification. C'est un chant traditionnel de la région du détroit de Bering, collecté par Jean Mallory, grand spécialiste des pôles. La première voix qu'on a entendue, chaque fois que je rentre du Grand Nord, j'en suis enchanté, c'est Stephen Harper, qui est toujours Premier ministre du Canada.
Oui.
Il y va souvent.
Alors, il fait la tournée des popotes arctiques une fois par an. Ça représente 40% de la masse continentale du Canada, mais pas 40% de son temps politique au Premier ministre Harper. Mais il y va tous les étés.
Et celui qui lui répond, on n'arrive pas à l'identifier, c'est un reportage de Radio-Canada, mais enfin, il semble que ce monsieur insiste, répondant au Premier ministre canadien, sur la nécessité de reconnaître leurs droits aux peuples autochtones en matière d'exploitation des ressources.
Oui, c'est une grande affaire au Canada, bien entendu. Le Canada, il faut être juste, a été le premier pays avec l'Alaska en 71 à tenter de donner une réponse par des droits miniers et des droits au sous-sol, ce qui n'existe pas, par exemple, dans l'Europe du Nord. Mais c'est une question qui pose un enjeu absolument essentiel, c'est la question des économies autochtones régionales, vraiment. Une économie autochtone, pour être moins dépendante et plus autonome d'Ottawa, doit avoir des fonds. Et donc la question des fonds, est-ce qu'on accepte des transferts financiers du Sud vers le Grand Nord ou est-ce qu'on essaye d'exploiter les richesses, quitte à poser la question évidemment des conséquences écologiques majeures de l'exploitation de ces richesses.
On essaie d'expliquer que l'Arctique, c'est une série de mondes. Si vous nous racontez comment dans le monde canadien, comment dire, des tranches ont été découpées, des autonomies ont été dessinées.
Oui, tout à fait. La première tranche, comme je reprends votre expression, c'est...
Qui manque un peu de finesse.
Oui, mais je pense qu'elle veut dire... Elle décrit une réalité. C'est 1975, c'est au Québec. C'est la convention d'Abbé-James et du Nord québécois. En 71, le Québec lance un programme de grands barrages sur son moyen nord et se confronte à l'absence de règlement des droits fonciers des autochtones, et en particulier des Indiens Cris et des Inuits, et il lance une première tentative juridique de résoudre cette question. Le Nunavut, en 1999, offrira un modèle modernisé avec des droits miniers et des droits pétroliers aux Inuits.
Et là, il y a des structures parlementaires représentatives ?
Oui, c'était un gouvernement avec une première ministre au Nunavut. Ça a été négocié pendant un quart de siècle par des élites inuites entre le gouvernement fédéral et un groupe extrêmement brillant de jeunes Inuits qui ont cru qu'un territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés qui se construit institutionnellement, puisque le Nunavut est un des trois territoires institutionnels du Canada, pouvait apporter un avenir politique à une trentaine de milliers d'Inuits qui vivent éparpillés sur ce territoire.
On est au nord du Québec, et alors, ce territoire est issu d'une scission de ce qu'on appelait les territoires du Nord-Ouest.
C'est ça.
Mais vous me dites, il y a 30 000 Inuits. Est-ce que des droits sont réservés à ceux qui ne le sont pas et qui vivent et travaillent?
Alors, juridiquement, les anglo-saxons ont toujours une passion de la complexité, donc je ne vais pas rentrer dans une explication peut-être trop sévère pour vos auditeurs, mais disons que sur le plan cartographique, 35 000 km² de zones ont été cartographiées comme étant des propriétés sur le sous-sol pour les Inuits.
Alors nous voilà dans les années 70, 80, voire 1990. Là, un grand basculement se produit. Il va falloir parler des conséquences du réchauffement climatique. On est juste au début de cette période, là, dans ce reportage de 1985, toujours issu de Radio-Canada.
Les États-Unis s'apprêtent à contester dès jeudi la souveraineté du Canada dans l'archipel arctique en envoyant, sans l'autorisation d'Ottawa, un brise-glace dans le fameux passage du Nord-Ouest.
Le Polar Sea, le plus gros brise-glace américain, quittera la base militaire américaine de Thule au Groenland, empruntera, en contournant quelques îles de l'archipel arctique canadien, ce qu'on appelle le passage du Nord-Ouest. Pas très fréquenté ce passage, parce que difficile et ouvert quelques semaines par an seulement. 42 passages au total. Chaque passage de bateau canadien sert à affirmer la souveraineté sur le passage. De la même façon, chaque passage américain sert à contester cette affirmation systématiquement au monde entier. Washington a avisé le Canada que le Polar Sea emprunterait le passage en prenant bien soin de ne pas demander d'autorisation. Le Canada s'est contenté de constater le désaccord, ce qui inquiète les spécialistes qui s'étaient réunis ce matin à Ottawa et aussi les Inuits, c'est le manque de vigueur de la protestation canadienne. Elle risque d'affaiblir, selon eux, la position du Canada si la cause est portée en cour internationale. Ils concluent tous, cependant, qu'il est grand temps que le Canada exerce vraiment, sur le terrain, sa souveraineté.
C'est drôle parce que ce sont les Inuits là, qui réclament du gouvernement du Canada qu'ils disent « c'est à nous ». Depuis 1985, la décroissance des épaisses glaces pluriannuelles, la réduction de la banquise estivale, ouvrent de nouvelles perspectives au passage. Là, vous me regardez d'un œil ironique, Éric Canobio, vous vous demandez si je vais me lancer dans la chasse aux fantasmes. Ben oui, ça fait des siècles qu'on cherche à relier tous les continents réels ou imaginaires. Il faut qu'on boucle la boucle avec le passage du Nord-Ouest et le passage du Nord-Est.
Ah oui, je pense qu'on peut leur appliquer vraiment l'idée du mythe. Ça a été d'ailleurs une question d'honneur pour la marine britannique pendant quelques siècles d'ouvrir le passage du Nord-Ouest, qui a été ouvert d'ailleurs par Amundsen, par un très grand explorateur norvégien. Non, je crois que depuis quelques années, il y a eu une projection fantasmatique sur l'idée que ces voies allaient se rajouter aux voies du commerce mondial. Or, je pense que la situation aujourd'hui est infiniment plus complexe, d'abord parce qu'il y a une absence de code polaire, c'est-à-dire d'encadrement réglementaire pour les navires de fret, hein, pour les gros cargos. Voilà. Par contre, ce sont des voies qui sont extrêmement mobilisatrices de trafic pour la Russie sur sa route maritime du Nord, et un peu pour le Canada, mais beaucoup moins pour le Canada. Donc, fallait-il y projeter ces fantasmes depuis quelques années? La question reste ouverte.
Alors, depuis 2007, nouveau fantasme, on parle de réchauffement armé, une formule que vous adorez, Éric Canobio, notamment depuis que la Russie, ça a été très médiatisé, a posé un drapeau sur une dorsale au fond de l'eau. Alors, vous expliquez qu'il ne faut pas y voir là
un réarmement et un début de guerre froide, au contraire peut-être la possibilité d'une recherche d'internationalisation nouvelle ?
Pas exactement. Je pense qu'en 2007, l'espèce d'onde de choc médiatique a créé cet événement tout à fait exceptionnel, puisqu'on aurait pu faire rentrer dans l'histoire exploratoire de l'Arctique, a été, à mon avis, la résultante d'un diagnostic totalement contraire, c'est que les grandes nations polaires s'étaient désengagées, mais complètement militairement, de l'Arctique, et qu'elles prenaient conscience que cet espace pouvait revenir à travers des enjeux d'appropriation de souveraineté.
Reconstruction de la puissance, dit-on, pour la Russie de Poutine, regain d'intérêt pour les États-Unis qui demandent l'internationalisation, la maximale de la région. Un conseil arctique est né en 1996. Et voici une séance qu'il tenait en Suède en 2013. C'est le secrétaire d'État américain qui parle et qui dit que son président a récemment annoncé la stratégie américaine pour l'Arctique, sécurité, bonne gestion, coopération internationale, absence de conflit, c'est la priorité des Américains.
I'm pleased that President Obama, just a few days ago, released the U.S. National Strategy for the Arctic region, reaffirming that a secure and well-managed Arctic marked by international cooperation and conflict, an absence of conflict, is a key policy priority of the United States.
Apparemment, les perspectives doivent être prometteuses. Cela fait 6 ans que la Chine demande à entrer au Conseil de l'Arctique.
Comme tout le monde, nous sommes intéressés. Même Singapour l'est. J'ai vu sur Internet quelqu'un demander si Singapour avait quoi que ce soit à voir là-dedans, si l'Arctique avait quelque rapport que ce soit avec Singapour. Et un Singapourien a répondu « Oui, pourquoi pas ?» Nous pouvons nous aussi nous intéresser à l'Arctique et peut-être tirer profit de l'Arctique d'une manière ou d'une autre.
La Chine obtient le statut d'observateur après une longue nuit de tractations. Et l'Europe, elle est toujours gardée à l'écart. Tant qu'elle n'assoupira pas ses règles écologiques, comme par exemple sur la chasse aux phoques, la porte du Conseil de l'Arctique lui restera fermée.
Pour le moment, on est sous l'ordre chacun chez soi, en refusant toute obéissance à une loi collective qui n'existe pas. Donc rien. Et c'est terrifiant.
Michel Rocard, ambassadeur français pour les pôles. Nous avons français un poste d'observateur, mais pas l'Union européenne. Et alors la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, à quoi il faut ajouter Singapour ?
Oui. Oui, la zone Asie-Pacifique et la Chine en tête ont été très offensifs sur l'idée de rentrer dans ce Conseil arctique. On n'a pas le temps, évidemment, d'expliquer à quoi ça sert, puisque la question peut être légitimement posée. Disons que c'est un forum où un certain nombre de pays ont un droit de vote. Les autochtones représentés à travers des grandes organisations ne l'ont pas, et il y a des strapontins où nous sommes assis. Les 8 États à dimension polaire sont assis autour d'une table pour, le thé ensemble, peut-être discuter de choses fondamentales, pendant que l'Arctique est quand même en proie aux égoïsmes. Michel Rocard a une très belle expression et il exprime l'idée d'un syndicat de copropriétaires sur le domaine arctique. Je suis assez d'accord avec ça. C'est un éloge des égoïsmes nationaux.
Au mieux peut-on donc espérer une cohabitation. Mais on sait pourquoi l'Inde, la Corée du Sud, Singapour et la Chine s'intéressent à l'Arctique. Les États non polaires sont polarisés par les ressources boréales.
Absolument. Pour la Chine, qui vient de signer avec la Russie un contrat de 400 milliards de dollars sur des fournitures de gaz, la Chine et le Japon d'ailleurs aussi, ont pris conscience que l'Arctique, c'était vraiment le fond de leur jardin, y compris géographiquement, et que c'était vraisemblablement sur le 21e siècle un puits pour leurs besoins de gaz et de pétrole. Donc il y a un intérêt stratégique, énergétique, mais pas que, à être au moins présent.
Internationalisation ou appropriation de l'arrière-cour. Je remercie Éric Canobio. Je signale, entre autres, le numéro de la documentation photographique chère aux enseignants Mondes Arctiques et l'Atlas des pôles que peu auparavant vous aviez signé aux éditions Autrement. L'émission était préparée par Frédéric Martin, Franck Olivard, Martin Cellier, Ilinka Negulesco. La réalisation, c'était Jacques Sigal. La technique, Gilles Gaillard. Et de quoi allez-vous nous parler? On prenait le thé autour du Conseil Arctique dans un instant, Mathieu Vidard et vous?
Oui, ce ne sera pas du tout le cas. On va parler des troubles des conduites alimentaires dans un instant.
Il y a des troubles aussi du côté des régions que nous explorions. À tout de suite.